Bonjour à tous et à toutes. Passer après ce genre d'exhortation, toutes les exhortations, ça paraît par la prédication un peu pâle. C'est parce que ce qui est dit avant, c'est d'une puissance, c'est vraiment. Il faut être vraiment attentif et sensible à ce qui est dit avant. La prédication peut s'adresser à deux types d'auditeurs. Ceux qui ont déjà connu la situation et ceux qui vont connaître la situation. Est-ce que le Seigneur s'est assis sur le bord de votre vie, vous a regardé arriver et vous a parlé? J'espère que beaucoup dans la salle vont me dire oui. Est-ce que il connaissait votre vie? Il savait exactement la question qu'il fallait poser. Il savait comment vous viviez. Mais il savait pourquoi il était là. Pourquoi il était là? Alors vous allez me dire, mais sur quoi il va parler? Je vais vous parler sur Jean chapitre 4. Vous allez me dire en lisant, en ouvrant Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine. Oh, ça fait longtemps qu'on en parle, on m'en a toujours parlé. Et j'avais pas vraiment idée de faire une prédication là-dessus. Et cette semaine, le Seigneur m'a emmené. Depuis des semaines, j'ai la vigne stérile à cœur. Et le Seigneur, cette semaine, il m'a encore enlevé cette prédication pour partir sur la Samaritaine. Alors, ce qui est important, ce qui est très important, le verset 4, par exemple. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Quand on lit ce verset-là, on dit, oui, d'accord, Jésus passe normalement par la Samarie. Est-ce que vous connaissez le contexte de ce verset et de ce texte-là de la Samaritaine? Est-ce que vous savez qu'aucun juif ne traversait la Samarie? Et si vous ne le saviez pas, il suffit de lire simplement 2 Rois, chapitre 17, et vous allez savoir pourquoi. En fin de compte, ça se passe du temps d'Osée, et le Osée a régné 9 ans sur la Samarie, et il y a un roi, j'ai noté le nom, parce que Salmanassar, qui est arrivé, qui a encerclé la Samarie, et qui a bouté Osée en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que le peuple juif qui vivait en Samarie a commis des abominations, les pires abominations qu'il soit. Donc il a expatrié carrément le peuple qui était à l'intérieur. Il a fait venir toute une multitude de nations qui ont eu plusieurs dieux, donc il y avait plein de choses qui ont été faites. En bref, les juifs avaient en horreur la Samarie. Et ils faisaient, si vous prenez, vous cherchez sur Internet, vous allez voir, j'ai trouvé sur Internet, bien sûr, je ne peux pas le passer ici, j'ai trouvé tout le grand détour qu'il faisait, il peut passer par la droite de la Samarie pour remonter, pour éviter la Samarie. Moi, j'ai dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable de constater que Jésus va des endroits où personne ne va. Il s'en fiche du contexte. Là, dans ce contexte-là, il s'en fichait royalement. Il est allé directement en Samarie. Quand on lit la suite, alors vous allez me dire, oui, bon, d'accord, il va parler avec la Samaritaine, mais regardez, si vous prenez acte 1, si je vais trop loin, il y a acte 1 et acte 8. Vous allez voir les choses prodigieuses qui ont été provoquées. Donc c'est vraiment qu'une partie que j'ai notée. Donc il y a des disciples, Jean, donc il parlait du baptême de Jean, il parlait du baptême du Saint-Esprit, vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Et les apôtres lui posaient question, Seigneur, en ce temps-là, Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette partie qui était oubliée, Jésus l'a inclue dans son plan. C'est déjà pour vous dire que même si, pour ceux qui n'ont pas connu cet épisode où Jésus est venu sur le bord de sa vie, même si vous pensez que votre vie est complètement du n'importe quoi, que Dieu n'interviendra pas, Dieu ceci, Dieu cela, dans toute la Judée et dans la Samarie, Jésus fera son œuvre quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il va venir au milieu, si vous le demandez, il va venir au milieu de votre vie et il fera son œuvre. Et si on regarde en acte 8, ça va bien plus loin. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. D'un endroit qui était maudit par les Juifs, la parole est annoncé, la parole est prêchée. Même si vous sentez que votre vie est maudite, la parole de Dieu peut y être prêchée et y être annoncée avec force et avec puissance. Donc, pour en revenir, on va repartir en Jean, chapitre 4. Donc, je ne vais pas prendre tout reprendre le récit de la Samaritaine, mais sachez que déjà, rien que dans l'entame, il y a une prédication magnifique sur le fait que le Seigneur peut venir dans votre vie, quoi que vous puissiez penser. Et même si, en étant chrétien, on n'a pas une vie qui est droite, on pense que notre vie n'est pas droite, on pense ceci, on pense cela, le Seigneur va s'asseoir au bord de notre vie et nous parle. Comme a dit Jeannette, Jésus nous parle, mais il faut savoir également écouter ce qu'il a à nous dire. La Samaritaine qui arrive là, il la connaît parfaitement. Il sait pourquoi elle est déjà à cette heure inaccoutumée. Elle vient chercher de l'eau à une heure très, très tôt dans le matin. Il sait pourquoi elle vient. Comme il connaît parfaitement nos vies, il sait pourquoi on est là aujourd'hui. Et il lui demande, il lui parle sur des choses toutes simples, toutes choses toutes banales. Jésus lui dit, donne-moi à boire, au verset 7. Car les disciples étaient allés chercher des vivres. Elle lui dit, donc là vous voyez qu'elle lui rappelle quelque chose d'important. Comment toi qui est juif, tu peux me demander à boire. Comment toi qui es Dieu, tu peux t'occuper de ma vie ? Voilà ce qu'on pourrait penser. Mais il va continuer. Il lui dit au verset 10, et c'est là la première partie de la prédication, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Parfois, le Seigneur dans nos vies nous demande simplement de le connaître. Lorsqu'on entend parler de Jésus, c'est simplement avoir cette curiosité. Pour les gens qui sont déjà à Christ et qui se refroidissent, Jésus dit simplement une chose. Souviens-toi quand je me suis assis pour la première fois au bord du chemin et que je t'ai parlé et que tu m'as répondu. Souviens-toi de ce moment-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, il dit, mais je suis ici maintenant, c'est pour toi. Ne regarde pas tout ce qui te fait vivre aujourd'hui. Parce que ce qui te fait vivre aujourd'hui ne sert à rien. Parce que tout ce qui te fait vivre aujourd'hui va s'arrêter un jour. Mais regarde à ce que Dieu te donne. Et je suis ce que Dieu te donne. C'est exactement le message de la bonne nouvelle. Dieu donne Jésus-Christ à ceux qui veulent le recevoir. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Là, il a brisé la glace. Il explique à la Samaritaine que ce qu'il a fait vivre, ça ne sert à rien. Et que les besoins de l'âme sont bien plus importants que tout ce qu'il a fait vivre actuellement. Et vous allez voir pourquoi il lui dit ça. Jésus, en fin de compte, il veut simplement que nous faire comprendre que ce que lui donne est plus important que les besoins du corps. Et que lorsqu'on reçoit ces choses, tout ce qui est matériel n'a plus l'importance que ça avait avant. Parce que ce qui fait vivre et ce qu'on doit sentir en nous, c'est son esprit. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à la Samaritaine. Et Satan a déjà insinué au travers d'Adam et Ève que Dieu était un Dieu exigeant. Satan a fait comprendre ça à l'humanité. Dieu est un Dieu exigeant parce qu'il leur avait fait refuser le bien. Tu ne connaîtras pas, tu ne dois surtout pas connaître l'arbre du connaissance du bien et du mal. Tu vois, tout n'est pas réservé. Dieu se garde des petites choses pour lui. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Et c'est une idée qui est restée pendant des temps et qui existe encore maintenant, qui a été transmise sur ce fait que Dieu a une partie à lui qu'il veut garder. Et j'espère qu'on ne fait pas partie de ces gens-là. J'espère qu'on a bien intégré le fait qu'il a donné son Fils, l'unique, pour nous. Dieu est un Dieu qui donne. Et ce matin, Dieu veut vous donner. Il veut vous donner son Fils, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il veut également vous rouvrir le chemin à ceux qui l'ont perdu. La connaissance de, et ça j'insiste là-dessus, la connaissance de Jésus-Christ donne une pleine liberté. On est libre de toute chose. Et ça nous permet également de demander des choses dans nos prières. Et c'est ce que Daniel nous a expliqué la semaine dernière. C'est la partie intercession de notre vie de chrétien. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir intercéder auprès de Dieu. Et pas seulement parler, c'est être écouté. C'est très important. Mais la Samaritaine ne peut profiter de cette liberté que lorsque sa conscience sera éclairée par la lumière divine, lorsqu'elle aura compris ce que Jésus-Christ est en train de lui dire. C'est simplement le processus de la délivrance. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, vous en avez tous fait l'expérience, il y a beaucoup de choses qui sont parties, des addictions, tabac, alcool, drogue, sexe, tout ce que vous voulez, tous les liens spirituels sont coupés. Tout. Jésus, quand il nous parle, il le sait parfaitement. La deuxième chose, c'est que l'eau, c'est-à-dire tout ce qu'on a, tous les biens matériels, et l'eau du puits de Jacob, ne désaltère que provisoirement. Et ça, Jésus va l'expliquer. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était le verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Est-ce qu'on n'a pas eu ces questions dans nos vies ? Tu n'as rien pour puiser, mais tu ne peux pas intervenir dans ma vie. C'est pas possible. Je suis trop sale. Mon puits est trop profond. Tu peux pas aller. Est-ce qu'on a conscience que Jésus va même au plus profond des ténèbres pour nous rechercher? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais est-ce que Jésus-Christ est capable de changer ma vie? Est-ce que c'est de la magie? Vous savez que non. Vous savez qu'il détient tout de son Père. Et c'est important de réfléchir sur les questions de la Samaritaine, parce que la Samaritaine sait que Jésus est un juif, mais elle ne connaît absolument pas la puissance de Jésus. Ces questions semblent anodines, mais elles sont très très importantes. Dans tout le contexte de cet épisode, elles sont importantes. Mais tu es juif, tu nous as bannis, et aujourd'hui, comment peux-tu faire ces choses? Tu es Jésus, tu as été crucifié, mais comment tu es capable de faire ces choses? Il y a plein de gens qui disent ça. Les Juifs encore actuellement pensent cela. Jésus ne peut pas avoir été crucifié. Les musulmans ont du mal à croire en Jésus, parce que pour eux, Jésus était fils de Dieu. C'était pas possible qu'un Dieu se fasse tuer sur une croix. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc Jésus va expliquer que les besoins temporels, tout ce qu'on fait actuellement n'est rien, n'est pas important. Et c'est souvent l'image de ce qu'on peut trouver dans le monde. C'est-à-dire que nos besoins légitimes sont parfois, je vais dire, rassasiés, mais pour combien de temps? Alors qu'on a tout en Christ. Tout en Christ. Jésus-Christ nous suffit. Jésus-Christ nous suffit. Je vois souvent, le plus beau des exemples, je vois souvent des gens qui se pointent avec des super téléphones à 800 euros pièce. Alors, iPhone 5, je crois maintenant, c'est iPhone 5 et tout. Et moi, ça m'épate parce que des fois, je leur dis, vous savez, le mien, j'ai même pas Internet, il n'est même pas écran tactile, il n'est rien du tout, mais j'arrive à téléphoner avec. C'est tout ce qu'il me faut, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Et voyez que le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Alors, il y a des gens qui vont dépenser 800 euros là maintenant. Ils ont le super iPhone 5 et tout. Ils peuvent même faire le café le matin, la lessive et tout, pratiquement, hein. Non, j'ai entendu ça hier, vous allez voir ce qui va nous arriver dans quelques années, ce qu'on va pouvoir faire avec un téléphone portable. Mais à la fin de leur vie, bon déjà il y a le fait que dans 6 mois, leur portable il sera dénaturé, mais à la fin de leur vie, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est l'AGN. Et comme dit José, on ne peut rien emporter. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il faut savoir que Satan a cette facilité de faire croire aux gens que c'est essentiel d'avoir le dernier top en téléphone, la dernière voiture qui, vous avez jusqu'à vous asseoir, elle fait le reste. Satan incite les gens parce que ça les détourne de la parole de Dieu. Alors qu'il suffit simplement de se prendre ce livre, cette parole, et d'être nourri. D'avoir des richesses incroyables. Donc en fin de compte, ce qu'il faut réaliser ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est que Jésus a à nous offrir plus que ce que le monde peut nous offrir. Pour ceux qui sont en Christ, c'est de chercher bien plus que ce que Jésus nous a déjà donné. Et d'entrer, je dirais presque, dans une ère nouvelle en Jésus-Christ, d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin. Et sachez une chose, c'est que Jésus se trouve toujours au bord de votre chemin. Il y a une chose à faire, c'est surtout de ne pas passer, enfin de passer, mais de le regarder, de s'arrêter. Et pas passer sans s'arrêter, sans le regarder. Parce que lui ne bougera pas, il est toujours là. L'Apocalypse vous le dit. Je me tiens devant la porte. Il y a eu un tableau qui a été fait où il n'y avait pas de clinche à la porte où Jésus se trouvait. La clinche de porte était du côté de la personne qui allait souper avec Jésus. Donc vous voyez, il y a ces deux parties qui sont importantes. Donc cette eau vive qu'on reçoit de Jésus nous libère. Nous sommes libres en Christ. Tout ce qui est dit d'autre, c'est à jeter au feu. La puissance de Jésus-Christ, cette eau vive qui est déversée dans notre corps, nous libère. Nous libère de toute chose. C'est comme un sevrage. La drogue, il y a des sevrages, il y a des configurations spéciales pour sevrer. Mais vous imaginez que recevoir Christ, c'est un sevrage total. Parce que ce ne sont plus les choses qui nous environnent, qui nous font vivre, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui nous fait vivre. C'est la puissance de l'Esprit. Si vous saviez de quoi nous serions capables si on laissait réellement l'Esprit de Dieu prendre toute la place dans nos vies. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de sentir des choses et d'agir, de téléphoner, de parler, parce que l'Esprit vous guide? De sentir qu'il faut prier à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y a des kilomètres, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous avez déjà senti d'être porté vers quelqu'un? Parce que cette personne qui sourit, qui va très bien, d'apparence, connaît les pires choses dans sa vie. C'est ce que veut faire vivre l'Esprit dans vos vies. La réalité de Jésus-Christ. Donc, Jésus donne cette source inépuisable, cette eau vive, et c'est une source inépuisable. Je vous ai expliqué l'histoire de l'iPhone, je vous ai expliqué tout ce que le monde vous donne, c'est pâle, parce qu'à chaque fois on va vous dire, ben voilà, celui-là il est vieux, il faut repasser à autre chose. Et ainsi de suite, ça vous force à dépenser, ça vous force à être au plus près de la mode, au plus près du monde. Tandis que les choses que Jésus nous donne sont inépuisables. Parce que la précarité va toujours décevoir. Même si vous achetez le dernier cri, un jour ou l'autre vous serez déçu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire oh, « Mais c'est dénaturé ton truc, regarde-moi j'ai ça maintenant ». Et c'est comme ça qu'on retrouve des familles n'ayant pas les moyens d'acheter ces choses vont le faire. C'est la course. C'est le malin qui nous met plein de choses en tête et qui fait qu'on oublie Jésus, on oublie son œuvre, on oublie sa puissance, on oublie cette liberté et on suit le monde. En Jérémie chapitre 2 verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » La Bible, j'espère que vous le savez, parle de nous comme des vases. Et quand elle parle des vases, elle ne parle pas de vases fissurés, mais elle parle de vases puissant, de vase costaud, que même un coup de marteau ne va pas faire briser. Et il veut nous remplir de cette eau vive. Bien sûr, ici, vous l'avez compris, c'est que Jésus-Christ est en train de lui parler de la grâce. La grâce que Dieu va donner au travers de Jésus-Christ. Ce moyen d'avoir une vie nouvelle. Mais elle doit accepter, la Samaritaine doit accepter l'offre. la comprendre et l'accepter. Et l'accepter d'une manière totale. C'est pas on n'accepte pas Jésus sur un moyen, une émotion. On accepte Jésus par conviction. Parce qu'on sait que ce que la parole nous dit est vrai. Au verset 14, d'ailleurs, Jésus insiste sur le fait que c'est un don gratuit, il n'y a rien à payer. Tout ce que vous allez avoir dans le monde, vous allez devoir le payer. Et des fois très cher. Mais Jésus, c'est un don gratuit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une fois que vous avez embrassé Jésus-Christ, vous l'avez embrassé à vie. Vous l'avez reçu dans vos cœurs à vie. Alors, il y a plein de versets qu'on peut mettre en parallèle, mais je vais, comme il est déjà midi moins le quart, je vais éviter de les placer. Donc, Jésus se place sur, sur un côté où actuellement la Samaritaine comprend de moins en moins. Mais il avait amené la discussion de telle manière qu'il a suscité l'intérêt de la Samaritaine. Il l'a vraiment subjugué. Mais maintenant, il a une chose à faire. Et je dirais quelque part, il faut qu'il lui porte l'estocade. C'est-à-dire que maintenant, il doit réveiller la conscience de la Samaritaine. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous. C'est réveiller notre conscience. Nous faire comprendre des deux côtés, hein, ceux qui sont en Christ et ceux qui ne connaissent pas Christ, qu'il y a encore des choses. Et que si on veut être libre en Christ, il faut qu'on libère cette conscience. Et quand je relis souvent l'histoire de la Samaritaine, je trouve ça magnifique. Parce que c'est vraiment les questions de Jésus et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment de telle manière à arriver à qu'elle lui confesse son péché. Et on peut penser qu'elle ne l'aurait pas fait. Elle venait tôt le matin parce qu'elle savait qu'elle risquait, si elle venait aux heures normales, elle est venue à 6 heures du matin pour chercher de l'eau. Hein. Si elle était venue à 9 heures, 10 heures, elle aurait rencontré des Samaritains qui connaissaient les choses. Mais là, elle vient à 6 heures du matin de telle manière qu'elle ne croise personne. Pas de bol, Jésus était là. Et des fois dans nos vies, on cache des choses en croyant que... Pas de bol, Jésus est là. Il le sait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il connaît la vie de la Samaritaine. Mais il a besoin d'une chose, et c'est le déclenchement de la vie en Christ. Témoigner notre vie à Christ. Elle sait, et Jésus savait, pareillement, qu'elle avait des hommes obscurs dans sa vie. Il lui pose une question, verset 17. Au verset 16 déjà, pardon. Jésus lui pose une question, il dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Il met exactement le doigt sur le problème de cette Samaritaine. Exactement le doigt là où il devait le mettre. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela tu dis vrai, lui dit-elle. « Seigneur, lui dit la femme, « je vois que tu es prophète. » C'est là où je dis que Jésus, quand il se place au bord de notre vie, il ne se place pas au bord de notre vie pour découvrir notre vie. Mais c'est pour nous amener à lui confesser notre vie, parce que notre vie la connaît déjà depuis longtemps. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, il la connaît. Pour ceux qui sont en Christ, il sait déjà encore les choses qui nous bloquent. On peut avoir reçu le baptême, on peut avoir eu des prémices et être bloqué spirituellement. Jésus veut simplement qu'on confesse. C'est ce qu'il a demandé à la Samaritaine. Va chercher ton mari. Parce qu'il savait qu'en fin de compte, elle n'avait déjà eu 5, mais que celui qui était avec elle, maintenant, n'était pas son mari. C'est simplement le fait que, en Christ, tout est mis à la lumière. Tout. Toutes choses. Même les choses cachées, qu'on croit cachées, Jésus les connaît. Il connaissait la Samaritaine. Et en psaume 90, verset 8, on a ce verset qui dit « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Rien n'est caché devant Dieu. Absolument rien. Est-ce que c'est le moment pour cette femme de prendre la fuite, de faire demi-tour, de rompre la relation avec Jésus? Absolument pas. Parce que la grâce est venue à elle. Jésus s'est dévoilé réellement parce qu'il a dévoilé l'état moral de la Samaritaine. Mais Jésus veut aller plus loin avec cette femme. Mais c'est surtout que, et c'est beaucoup ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi qu'il puisse avoir dans nos vies, des choses terribles, des choses sales, Jésus ne nous repousse pas. Il ne nous repousse absolument pas. Et au verset 25, la femme lui dit « Je sais qu'il y a un Messie qui doit venir, qui doit nous annoncer les mêmes choses que tu es en train de me dire. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Si vous posez la question à Jésus « Mais est-ce que tu es vraiment celui en qui je crois ?» Il va vous répondre. Mais est-ce qu'on a déjà posé cette question? Est-ce qu'on a déjà posé la question en Jésus? Comme disait Jeannette tout à l'heure. Est-ce qu'on a parlé? Et dire, mais ce que j'ai en moi, est-ce que c'est vraiment toi? Si tu existes, montre-toi à moi. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Si vous faites ça dans vos vies, ça efface le doute. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, pas de cette église, qui avaient le doute dans leur vie, mes bien-aimés. Ils ont eu la religiosité qui est entrée dans leur vie, c'est-à-dire le fait de venir au culte, de venir aux réunions de prière. C'était des machines à réunion. Mais ce qu'ils avaient au fond d'eux, c'était absolument pas Jésus-Christ. Absolument pas. Quand Jésus est intervenu ici, il a fait des choses que je vous l'ai dit au départ. Il est allé dans la Samarie. Il savait que c'était une abomination pour les Juifs. Il était juif lui-même. Il est allé en Samarie. Il est allé chercher cette femme. Non, vous imaginez bien, parce qu'on pourrait dire, oui, mais il est allé au puits parce qu'il avait soif. Absolument pas. Il est allé au puits parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette femme. Il aurait pu y aller à 8h, à 9h, il est allé à 6h du matin parce qu'il allait rencontrer cette femme. Le Seigneur Jésus viendra à un moment où vous n'allez surtout pas l'attendre. Il va se tenir sur le chemin de votre vie, au moment où vous ne l'attendrez pas. Il vous posera une seule question. peut-être, que fais-tu là? Que fais-tu de ces choses? Pour les chrétiens, vous dira, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Moi, je t'ai donné des choses impérissables. Qu'en as-tu fait? Les choses qu'on vit en conclusion, c'est applicable à toute personne pour recevoir le pardon du Sauveur. Et c'est souvent l'exemple, on peut dire d'un côté, c'est l'exemple de la personne qui cherche Jésus, et de l'autre côté, c'est la personne du chrétien qui est retournée vers le mal. C'est-à-dire qu'il s'est laissé submerger. Le Seigneur veut rencontrer ces gens-là sur un terrain où ils ne s'y attendent absolument pas. Peut-être sur leur terrain de leur déviance. Lui, il s'en fiche. Lui, il viendra. Il vient pour éveiller notre conscience, la conscience des gens qui sont encore dans le monde, mais la conscience aussi du pécheur qui a oublié son premier amour. Il faut savoir une chose également, et ça j'ai insisté là-dessus, c'est que même quand même le cœur reste insensible, si aujourd'hui vous restez insensible aux divers appels, aux diverses questions de Jésus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la voix de Dieu peut se faire plus sévère. Et il va utiliser sa verge pour nous corriger, pour nous remettre sur le droit chemin. Parce qu'il nous aime au plus profond de son être. Et c'est bien sûr une mesure ultime que le Seigneur va utiliser. C'est la dernière, le dernier ressort qu'il va utiliser, mais sachez-le, il le fera. Parce qu'il veut ramener chacun d'entre nous à lui. La Samaritaine avait fait toutes les abominations, 5 maris, et elle se tenait encore avec un gars qui n'était pas son mari. Il est quand même allé la chercher. Il aurait très bien pu dire, c'est ta vie. Regarde, tu as fait ça combien de fois? 6 fois tu as fait ça. T'es irrécupérable. Non, il lui a dit, je suis cette eau vive. Si on sait qu'aujourd'hui on est dans ce cas, il ne faut pas attendre la verge de Dieu. Il ne faut pas attendre que la colère de Dieu s'abatte. Je dirais quelque part pour nous, chacun, on est appelé à vivre dans l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. Et recherchons dès aujourd'hui cette présence de Jésus dans nos cœurs. Recherchons, peut-être en questionnant Jésus, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans nos vies. Peut-être que la parole de Dieu ne s'ouvre pas. Il faut peut-être poser la question à Jésus, pourquoi elle ne s'ouvre pas? Il va vous montrer que ça ne vient pas de la parole de Dieu, mais ça vient de vous, ça vient de nous. Parce que notre vie n'est peut-être pas réglée, ou parce qu'on n'est pas assez convaincu que ce que Jésus va faire dans nos vies est grand, qu'il est capable de nous sauver, qu'il est capable de changer notre être intérieur. Posez-lui toutes sortes de questions, mes bien-aimés. C'est important parce que Jésus n'attend que ça. Il ne s'est pas mis sur le bord du chemin et attendre que la Samaritaine lui s'arrête et lui pose une question. Il a engagé la conversation tout de suite. Lorsque Jésus parle, il faut vraiment écouter. Il va peut-être vous parler ce matin, il va peut-être vous parler ce soir, et lorsqu'il va vous parler, ben répondez-lui et posez-lui des questions. Parce que ce que vous allez demander, ça ne sera pas pour que votre vie aille mieux financièrement, socialement, Mais ça va être pour votre vie spirituelle que vous allez le faire. Et ça, Jésus-Christ le sait parfaitement. Il sait pourquoi vous posez cette question. N'oubliez jamais que les gens qui ont été guéris de l'alcool, du tabac, ont posé ouvertement, « Seigneur, libère-moi de ces choses-là. » Ils n'ont pas demandé de gagner au loto. Ils ont demandé d'être libérés de liens puissants. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il n'a pas dit, ben vous êtes terrible, votre faute est trop grave, je ne peux rien faire. Il a agi. Et il y a des gens qui ont été libérés. Et c'est ce que Jésus veut faire ce matin dans vos vies. Amen. Merci Seigneur, parce que je sais que ce matin tu te tiens sur le bord de notre chemin, Seigneur. Et Seigneur, tu veux nous attirer à toi pour que nous marchions sur ton chemin. Seigneur, puisses-tu nous remplir chacun pleinement de ton esprit, afin que ce ne soit plus nous qui marchions pour toi, mais toi qui marches en nous, et que nous puissions marcher ensemble sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, je te loue parce que tu connais chacun des cœurs ce matin, tu connais les liens, tu connais toutes ces choses que nous traînons depuis notre enfance. Et ce matin, tu dis, je suis l'eau vive. Je suis là pour te soulager, pour t'abreuver d'un breuvage dont tu n'auras jamais plus soif et qui va te remplir de moi. Seigneur, que ce matin, par ton esprit, tu puisses saisir et que tu puisses libérer. Par le nom de Jésus. Amen.